Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelle place pour la patience dans un monde pressé ? Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 août 2025 dans Le Devoir. Dans un monde pressé, quelle place tient la patience ? Cette dernière a occupé les philosophes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais paraît de plus en plus rare à notre époque face à ses urgences. Réflexion avec Emmanuel Housset, professeur de philosophie à l'Université de Caen-Normandie, auteur de l'article « La douceur de la patience », paru dans la Revue d'éthique et de théologie morale en 2008 et lauréat du Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Commençons par une question simple en apparence, mais complexe en réalité. Qu'est-ce que la patience à vos yeux ? La patience, c'est d'abord la capacité à donner son temps. Nous avons beaucoup de mal à le faire parce que nous avons du mal à sortir de nous-mêmes. Nous nous enfermons facilement dans nos préoccupations et dans nos objectifs. Pourtant, dans mon esprit, la patience est la capacité à être à l'écoute des autres. C'est le fait de ne pas pouvoir exiger d'autrui qu'il réponde immédiatement à mes attentes, que ce soit finalement dans l'amitié, dans la vie de famille ou dans les relations en général. Être patient, c'est aussi être capable d'endurer les autres, ce qui n'est jamais simple. Mais au-delà de ça, c'est aussi la capacité de se dire que l'autre a son temps propre et que je ne peux pas forcer ce temps-là si je l'estime et si je l'aime. La patience représente aussi la faculté d'attendre et de tendre vers un but incertain, intangible, qui peut reculer à mesure que nous nous en approchons, mais qui oriente la boussole de nos vies. La vraie patience, en ce sens, c'est la capacité de ne pas perdre de vue le fait qu'en dépit des difficultés, en dépit des tyrannies, par exemple, il y a un horizon plus lointain de la paix, de la justice, de la vérité. Comment la signification de la patience a-t-elle évolué au fil de l'histoire ? La patience représentait la racine de toutes les vertus jusqu'à la toute fin de la philosophie médiévale. Dans la pensée grecque, elle n'était pas simplement une des vertus, mais la condition de toutes les autres. Elle signifiait la capacité à endurer le monde et le temps. L'Odyssée d'Homère peut se lire comme une ode à la patience d'Ulysse et de Pénélope face à l'adversité qui sépare les deux époux. À Rome, les stoïciens ont aussi élevé la patience au rang de vertu suprême. L'image de Sénèque est celle de l'homme patient, semblable au rocher qui subit l'assaut des vagues sans broncher. Dans la Bible aussi, la patience occupe une importance prépondérante. La figure de Job, par exemple, est en quelque sorte l'incarnation de la patience. Dans la religion chrétienne, la patience paraît être une condition du salut. Il faut endurer les souffrances terrestres pour accéder au ciel. S'agit-il d'une patience plus docile, contrairement à la patience de la philosophie antique plus proche de la sagesse ? Dans le christianisme, l'homme patient n'est pas simplement l'homme impassible, c'est-à-dire celui qui serait capable de tout subir et de tout supporter. Devenir patient, c'est surtout ne pas perdre espoir. Il y a, c'est vrai, la souffrance à endurer, mais aussi la manière dont nous accueillons cette souffrance pour éviter qu'elle nous envahisse au point de nous déterminer totalement. Comment la perception de la patience connaît-elle un renversement radical à la fin du Moyen Âge ? Ce changement de perspective est très lié au changement dans la compréhension du monde et dans la compréhension de l'homme amorcé par les Lumières. C'est un véritable tournant parce que le monde devient un vis-à-vis qu'il faut maîtriser, alors qu'auparavant, c'était une force qui imposait sa propre cadence à l'humanité. Nous devenons individuellement et collectivement responsables du sens du monde, en quelque sorte. La patience ne reste plus seulement une capacité à attendre le développement des choses, mais aussi une capacité à vouloir. L'homme n'est plus celui qui se définit par la place qu'il occupe dans la nature, mais devient celui qui se définit par sa volonté et par sa capacité à se déterminer lui-même. La patience devient alors une tâche envers soi-même, qui est parfois sans indulgence. Nous pouvons devenir extrêmement exigeants par rapport à nous-mêmes. Dès que nous subissons un échec, nous tentons systématiquement de le surmonter sans parfois nous donner le temps. Ce changement introduit une certaine impatience dans la patience. La patience a donc longtemps occupé les philosophes et chaque grande religion lui a accordé une place importante. Cependant, elle constitue une denrée plutôt rare de nos jours. Pourquoi, à votre avis ? Sans vouloir donner une signification trop morale au terme, je pense que c'est lié à une forme d'égoïsme. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas les autres, ni que nous n'avons pas de rapport à autrui, mais que nous sommes toujours un peu centrés uniquement sur soi-même. La générosité, ça ne consiste pas à donner des biens matériels, mais bien d'abord à donner de soi, c'est-à-dire de son temps. Je pense que c'est ça la sagesse, finalement. Les communications et les transports ont atteint des vitesses inégalées dans l'histoire de l'humanité, et pourtant, notre époque semble cultiver l'impatience. Comment expliquer ce paradoxe ? Je pense que l'impatience est un luxe et que nous nous habituons toujours très vite au luxe. Quand nous tombons en panne, nous ne nous étonnons même plus qu'un dépanneur arrive dans la demi-heure qui suit. C'est devenu la norme. Et c'est plutôt quand le dépanneur accuse 10 minutes de retard que nous jugeons la situation anormale. Nous ne savons plus attendre. Parfois, l'impatience peut être bonne par rapport aux injustices, par exemple. Elle peut aussi être dangereuse quand elle exprime l'incapacité à différer des besoins qui ne sont pas essentiels. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu puéril dans notre impatience contemporaine, à savoir que nous voulons tout, tout de suite, un peu comme l'exige un enfant. Quelles sont les conséquences de notre impatience contemporaine ? Je pense que l'humanité a du mal à s'aimer elle-même dans ce monde. Elle aime des images de lui-même, mais elle ne s'aime pas toujours véritablement elle-même. Elle se demande finalement ce qu'elle doit faire exactement de l'existence et quels sont les buts les plus importants de celle-ci. Nous nous fixons des objectifs finis, devenir riche ou puissant, au point d'en oublier les buts qui ne sont pas exactement de l'ordre du temps, par exemple la recherche de la sagesse, la recherche du souci d'autrui, la capacité à accepter, aussi les rencontres inattendues. L'impatience a-t-elle aussi des répercussions à l'échelle de la société ? Oui, parce que nous avons beaucoup de mal à accepter la lenteur. Cela peut produire de l'exclusion, par exemple envers les personnes âgées. Nous voudrions dialoguer tout de suite, immédiatement, sans par exemple attendre les mots de la personne âgée, ni respecter sa capacité à s'exprimer ou à rester en silence avec elle, sans vouloir à tout prix qu'il y ait un échange d'idées ou d'informations. Cette exclusion peut toucher tous ceux et celles qui ne s'adaptent pas au rythme imposé. C'est parfois extrêmement difficile d'accepter qu'un enfant ait besoin de plus de temps qu'un autre pour apprendre. Un enfant qui aurait tout simplement eu besoin d'un an ou 2 ans de plus pour apprendre va être écarté du système scolaire. C'est aussi une forme d'exclusion suscitée par l'impatience. Cela se traduit sur le plan politique, dans la mesure où l'exigence d'efficacité fait qu'on ne favorise que le court terme, même si les idéaux de justice, de liberté, d'égalité demandent du temps. La démocratie aussi demande du temps et des résultats sur le temps long. L'impatience peut nous porter vers des régimes plus autoritaires qui ne s'encombrent pas du temps de discussion nécessaire pour parvenir à un consensus. C'était « Quelle place pour la patience dans un monde pressé ?» Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 août 2025 dans Le Devoir.
Parlons souveraineté. Un texte de François-William Croteau, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir. Je dérogerai quelque peu à mes thèmes de prédilection pour vous parler aujourd'hui de souveraineté. C'est un sujet d'autant plus chaud qu'il se joue à une époque où, au sud de la frontière, un régime aux contours de plus en plus autoritaire se transforme en menace existentielle. En matière numérique, comme dans bien d'autres domaines, le président états-unien Donald Trump cherche en effet à étendre son impérialisme industriel pour imposer un modèle de marché ultra-libéral. Vous pensiez que j'allais parler d'une autre forme de souveraineté? Certes, je l'avoue, j'ai voté oui en 1995 et je voterai encore oui si jamais un autre référendum devait avoir lieu au Québec. Voilà, c'est dit. Maintenant que cette question est réglée, passons au programme principal. Je vous parle aujourd'hui de souveraineté numérique, alors que le Québec et le Canada cherchent à développer de nouveaux partenariats économiques et à réduire leur dépendance envers les industries états-uniennes. L'enjeu a refait surface au moment où Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon et Microsoft, les GAFAM, tentent d'étendre encore davantage leur emprise sur le numérique mondial. La question de l'hébergement des données est au centre de ces rivalités et révèle l'ampleur du défi. Il faut comprendre qu'avec la bulle de l'intelligence artificielle, IA, les investissements massifs dans de nouveaux centres de données pour répondre à la demande croissante en hébergement poussent plusieurs États à se questionner sérieusement sur la sécurité et l'intégrité des données qui ne sont pas entreposées sur leur territoire. Mais l'enjeu est encore plus vaste. La souveraineté numérique, au Québec comme au Canada, ne concerne pas seulement l'endroit où les données sont conservées. Elle touche aussi l'identité de celui qui les héberge. La question est complexe, mais une explication simple existe. En matière de souveraineté numérique, il faut d'abord dissiper un malentendu tenace. Beaucoup croient qu'héberger leurs données au Canada, sur des serveurs d'Amazon Web Services, AWS, ou de Microsoft localisés physiquement ici, suffit quand vient le temps de les protéger des lois étrangères. Ce n'est malheureusement pas le cas. Dès lors qu'une entreprise est sous autorité états-unienne, ses activités, où qu'elles soient dans le monde, sont assujetties au Patriot Act, Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, et au Cloud Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Cela signifie que, même si vos données ne quittent jamais Montréal, Québec ou Toronto, une agence américaine peut en exiger l'accès et l'entreprise devra obtempérer. Autrement dit, on perd une part importante de notre souveraineté dès qu'un acteur états-unien se trouve dans la chaîne. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de souveraineté numérique au Québec ou au Canada, la définition doit être sans équivoque. Pour être réellement souveraine, nos données doivent être hébergées ici, dans une infrastructure canadienne ou québécoise, par une entreprise d'ici, soumise exclusivement à nos lois. Pour comprendre ce que représente concrètement une démarche de souveraineté numérique, il suffit d'observer certains États qui ont décidé de réduire leur dépendance vis-à-vis des géants états-uniens. Le Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, en est l'exemple le plus abouti. Le Land a adopté un poste de travail souverain basé sur Linux et LibreOffice, tout en rapatriant ses outils collaboratifs sur Nextcloud, installés dans ses propres centres de données publiques. Une logique semblable se déploie au Danemark, où des municipalités comme Aarhus et Copenhague misent sur LibreOffice ou OnlyOffice, hébergés sur des serveurs municipaux ou nationaux, afin de s'assurer que leurs données demeurent sous juridiction danoise ou européenne. L'Italie va encore plus loin avec son ministère de la Défense, qui a fait migrer plus de 120 000 postes vers LibreOffice et qui a adopté le format ouvert ODF comme norme. Cette transition ne visait pas seulement à faire des économies, même si celles-ci sont importantes, mais aussi et surtout à répondre à des impératifs de sécurité nationale. Tous les fichiers sont désormais entreposés dans les infrastructures gouvernementales italiennes à l'abri des lois extraterritoriales états-uniennes. La France suit une trajectoire comparable avec sa stratégie du cloud au centre, qui exige que les solutions numériques de l'État soient hébergées en France ou en Europe par des opérateurs certifiés. Dans ces trois cas, l'idée reste la même. Les logiciels libres ne sont qu'un premier pas. La souveraineté se réalise lorsque les données sont conservées dans des infrastructures publiques contrôlées localement. Et pendant que l'Europe avance résolument dans cette direction, le Québec en est encore au premier pas. Ni les ministères, ni la plupart des municipalités ne disposent d'infrastructures publiques capables d'héberger leurs données de manière souveraine, ni même de soutenir l'émergence de solutions d'ici à grande échelle. Des entreprises locales comme Micrologic et la franco-canadienne OVH Cloud offrent pourtant déjà des options d'hébergement au Québec, mais elles demeurent peu utilisées par le secteur public. Nous dépendons encore largement de Microsoft, d'Amazon et de Google pour nos outils de travail et nos environnements info-nuagiques, ce qui nous expose aux lois extraterritoriales états-uniennes. Dans un contexte où les États-Unis glissent vers un autoritarisme assumé et où leur industrie numérique est en son emprise, il devient difficile d'ignorer la vulnérabilité de nos institutions. la souveraineté numérique n'est plus un caprice technologique. C'est une question de sécurité, de résilience et de démocratie. L'Europe l'a compris. Il serait temps que le Québec engage la même réflexion. Je ne sais pas si le Québec sera un jour un pays. Mais une chose est certaine. Si nous voulons rester maîtres chez nous, il faudra commencer par arrêter de confier nos données, nos services publics et nos institutions à d'autres. C'était « Parlons souveraineté », un texte de François-William Croteau, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir.
Ménage numérique, réglage d'usine et la police du net. Un texte d'Alain McKenna, paru le 3 décembre 2025 dans La Presse. Question de Francine Brisebois. Quelle est la fiabilité des logiciels nettoyeurs d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones? Ils sont censés effacer les duplicatas de photos, courriels, etc. J'aimerais utiliser une telle fonctionnalité si je la savais fiable. C'est tentant de croire au logiciel miracle qui fera le grand ménage numérique à votre place. Votre prudence est tout à votre honneur, car ce marché est une jungle. Certains logiciels sont légitimes. Il y en a qui sont hérités d'une époque où défragmenter son disque dur pouvait avoir un effet sur la performance globale du PC. On n'est plus là. D'autres encore, généralement gratuits, sont en réalité des logiciels publicitaires déguisés, sinon pire. Sur PC, méfiez-vous des logiciels qui promettent d'accélérer votre système. Windows et Mac OS ont déjà des outils d'entretien très performants. Pour faire le ménage de vos photos sur téléphone ou sur tablette, vous n'avez rien à installer. Apple et Google proposent à même la photothèque de vos appareils de fusionner les doublons ou de libérer de l'espace en transférant vos fichiers sur votre stockage info nuagique. Sur iPhone ou iPad, ouvrez simplement l'application Photos et descendez jusqu'à la section Autres pour trouver l'album Doublons. Sur Android, l'application officielle Fichiers de Google offre une fonction de nettoyage similaire. Commencez toujours par ces outils natifs. Ils sont gratuits, efficaces et sans danger pour vos données. Question d'Alain Drouin. Compte tenu des données personnelles stockées dans les téléphones, quelle procédure convient-il de suivre pour s'en débarrasser de façon sécurisée lors d'un changement d'appareil? C'est une étape cruciale, trop souvent négligée. Nos téléphones sont devenus de véritables coffres-forts numériques. La sécurité des appareils modernes, iPhone et Android, repose sur le chiffrement matériel. Vos données sont mélangées mathématiquement et ne sont lisibles qu'avec votre code. La procédure de sécurité repose donc sur une seule action définitive, la réinitialisation aux paramètres d'usine. Ce processus détruit la clé de chiffrement, rendant toute récupération de données par le prochain propriétaire techniquement impossible. La marche à suivre est simple. D'abord, faites une sauvegarde complète. Déconnectez vos comptes iCloud ou Google pour désactiver la protection antivol. Rendez-vous ensuite dans les réglages pour sélectionner l'option « Effacer contenu et réglages » iPhone ou « Rétablir la configuration d'usine » Android. Une fois de retour à l'écran d'accueil « Bonjour » ou « Bienvenue », votre appareil est aussi vierge qu'à sa sortie de la boîte. Vous pouvez le vendre ou le recycler, l'esprit tranquille. Question de Denis Lachapelle. Existe-t-il une police pour arrêter les pirates et arnaqueurs informatiques? Est-elle efficace? ces criminels finissent-ils en prison? Votre question traduit bien le sentiment d'impunité qui semble régner en ligne. La réponse est oui. Il existe des unités de cybercriminalité très compétentes au sein de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada qui collaborent étroitement avec le FBI et Interpol. Leur efficacité se heurte tout de même à une réalité géographique complexe. L'Internet n'a pas de frontières. Les policiers, eux, en ont. La majorité des pirates opèrent à partir d'États étrangers qui refusent de collaborer ou d'extrader les suspects. Arrêter un pirate installé dans un pays hostile est un véritable casse-tête diplomatique et juridique. Des coups de filet spectaculaires surviennent parfois contre de gros réseaux internationaux, mais pour la fraude du quotidien visant le citoyen, les ressources manquent et les enquêtes aboutissent rarement. C'est pourquoi la justice est difficilement rendue. Votre vigilance demeure la meilleure protection contre ces criminels insaisissables. C'était Ménage numérique, réglage d'usine et la police du net. Un texte d'Alain McKenna paru le 3 décembre 2025 dans la presse.
Déconnecté avec Boucard Diouf. Un texte de Frédéric Charest paru à l'hiver 2026 dans Virage. Prisonniers de nos écrans et accros à nos technos, nous ressemblons de plus en plus à des junkies, toujours en quête de doses numériques plus fortes. Or, cette dépendance au monde virtuel met en jeu la santé physique et mentale de notre espèce, prévient Boucard Diouf dans un nouveau livre qui plaide pour une reconnexion aux racines du monde naturel et de notre humanité. Chaque fois que les besoins de base d'un individu sont comblés, son cerveau est récompensé par la dopamine, explique l'auteur de « Déconnecté » en entrevue avec Virage. Plus il en reçoit, plus il en a besoin pour obtenir les mêmes effets. On appelle ça l'habituation hédonique. Et ça, les géants du capitalisme numérique le maîtrisent parfaitement. À leur grand profit et à nos risques et périls. On devient des junkies de la dopamine, met en garde le biologiste aussi humoriste. Chaque like, chaque jeu sur tablette, chaque achat en un clic déclenche une récompense chimique. Et quand je dis « on », j'inclus tout le monde, car la problématique est planétaire et touche les enfants, mais aussi les adultes, poursuit-il. La preuve, sa grande sœur âgée de plus de 70 ans, qui au Sénégal ne se lasse jamais de regarder des vidéos de chats. Elle est toujours là-dedans, même en famille. On lui dit « Hey, c'est parce qu'on est avec toi, là ». Des vidéos toujours plus courtes, qui défilent toujours plus vite. Je les vois dans mes spectacles, les ados qui sortent leur téléphone, poursuit-il en riant. Peut-être que c'est parce que je suis plate, mais quand même. C'est sans compter l'intelligence artificielle qui nous flatte dans le sens du poil en nous offrant de faire les efforts intellectuels à notre place. Le coût de la gratification. Toutefois, cette gratification immédiate n'est pas gratuite, rappelle l'animateur, qui évoque l'image d'un prédateur dispersant un troupeau pour l'affaiblir. Il faut être conscient qu'on veut t'isoler du groupe, toi, un animal social, pour avoir une emprise totale, pour que tu cliques sur un lien et qu'on te vende quelque chose qu'on va te livrer à la maison. Plus on clique, plus on reste seul. Plus on est seul, plus on clique. Et pas besoin d'avoir la tête à ChatGPT pour comprendre que ce cercle vicieux ne peut que mener au cul-de-sac. Les animaux sociaux ont besoin de se sentir, de se parler, de se chicaner et même de mémérer. Une tablette, ce n'est pas mauvais, mais si on ne fait que se brancher, on délègue notre socialisation aux ordinateurs et au capitalisme numérique. Résultat, solitude accrue et anxiété. Pensons au chien, qui est lui aussi un animal social. Si on ne lui parle pas, il vire crackpot. Pendant la pandémie, tout le monde était collé aux réseaux sociaux et on a vu se développer une épidémie de problèmes de santé mentale. Ces risques sont aggravés par les algorithmes. Qu'est-ce qui marche? La méchanceté, le racisme et l'intimidation, par exemple, génèrent beaucoup plus de trafic. Le conspirationnisme aussi, avec toutes les conséquences que ça implique. Les racines du bien. Est-ce que les jeux sont faits? Dans son livre, Boucard Diouf se garde de sombrer dans le fatalisme. Sachant pertinemment que la technologie ne fera pas marche arrière, l'IA est là, qu'on le veuille ou non, il plaide pour un usage empreint de plus de sobriété numérique et de discernement. Il s'agit d'en être conscient et de se dire de temps en temps « Je déconnecte mon cerveau, je prends des pauses », dit-il, saluant l'interdiction récente du cellulaire à l'école. Dans son essai, il vante aussi les vertus du bain de forêt, expliquant comment la nature apaise notre psyché. Respirer l'air forestier, sentir le bois et les plantes, bouger en plein air, autant de remèdes naturels à nos maux virtuels. La seule présence dans la nature nous fait du bien, insiste-t-il. Certains parlent même de thérapie par la forêt, aussi appelée sylvothérapie. On peut donc dire que les racines, au sens propre comme au figuré, peuvent être bénéfiques pour notre santé et nous aider. En ce sens, les grands-parents ont un rôle à jouer en enseignant aux jeunes l'importance de la contemplation et de la patience. J'ai entendu Gilles Vigneault dire qu'il faut enseigner aux enfants l'art de s'ennuyer. La créativité naît de l'ennui. Cette revalorisation des liens intergénérationnels, c'est aussi celle du vécu et du savoir-faire qui se développe au fil des années et non au fil des vidéos TikTok. Historiquement, le prestige venait avec l'expérience, exprime Boucard Diouf. Quelqu'un de prestigieux était quelqu'un qui avait vu neiger. Peut-être vaut-il mieux inviter les plus jeunes à oublier un peu leurs likes et à passer une heure avec papy ou mamie pour les écouter raconter leurs souvenirs. La récompense pour cette reconnexion pourrait être beaucoup plus grande qu'une dose de dopamine. Déconnecter. Pour se rebrancher aux racines de notre humanité. Un livre de 175 pages écrit par Boucard Diouf est publié aux éditions La Presse. C'était « Déconnecté avec Boucard Diouf », un texte de Frédéric Charret paru à l'hiver 2026 dans Virage.